L'Agence de la santé publique du Canada lance cette année sa première campagne nationale de sensibilisation à la démence. Et pour en parler, j'accueille avec grand plaisir François Morency, qui est humoriste, auteur, comédien, animateur bien connu. Bonjour François Morency.
Bonjour Hélène.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
C'est plaisir, ma chère.
Alors, François, on a fait appel à vous pour être porte-parole et ambassadeur francophone de la campagne. Pourquoi, au juste?
Parce que lorsque mes parents sont décédés, mes vrais parents, pas ceux de la télé, évidemment,
ouais.
Donc mon père, il y a 3 ans, ma mère, il y a presque exactement 1 an, j'ai fait sur ma page Facebook des publications où je leur rendais hommage et où j'ai dit ce que personne à peu près savait, sauf mon entourage immédiat, à savoir que la fin de la vie de mes parents a été plutôt moche. Mon père, ça s'est terminé avec de l'Alzheimer, ma mère avec de la démence, et puis ça a été des statuts très partagés, très médiatisés, et ça s'est rendu entre autres dans les mains des gens qui étaient à construire la campagne de sensibilisation. Mm-hmm. Et puis, ils m'ont contacté, puis j'ai dit, je peux en parler, je suis pas un médecin ni un spécialiste, mais je peux assurément parler de mon vécu parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas tant.
Non.
Puis les gens mélangent un paquet de concepts aussi, la démence, l'Alzheimer, c'est pour démêler un peu tout ça aussi.
Oui, parce que le mot démence fait peur, on l'associe souvent à la folie. Qu'est-ce que la démence?
La démence, c'est le terme générique de problème neurocognitif. Il y a plusieurs formes de démence. L'Alzheimer, c'est une de ces formes-là. C'est de loin la plus répandue. C'est près de 70 % des cas, raison pour laquelle c'est de celle-là qu'on entend le plus parler. Mais ouais. Ce n'est pas la seule forme. Moi, ma mère, par exemple, a eu ce qu'on appelle une démence vasculaire, qui est créée lorsqu'il y a un manque d'afflux sanguin aux cellules du cerveau, créé par un AVC, par exemple. Dans le cas de ma mère, c'est une chute de glycémie. Ma mère était diabétique. Elle a fait un quasi-coma diabétique. Puis au retour de ça, elle n'était plus la même. Les cellules du cerveau avaient été endommagées qui ne se sont pas régénérées, évidemment. Donc, comme vous le dites, on associe ça à une espèce de folie parce que le mot est sévère, le mot est gros, le mot est quasi vulgaire, je dirais. Puis c'est un début de la campagne, c'est d'expliquer aux gens que les gens qui vont être atteints d'une forme de démence ne deviennent pas automatiquement coupés de toute réalité et ne deviennent pas des parias ou des gens qui ne peuvent fonctionner.
Mm-hmm.
Il y a plusieurs gens qui sont à un niveau assez bas de démence, qui ont une vie professionnelle, personnelle, sociale, amicale, amoureuse, et puis qui peuvent fonctionner.
C'est vraiment du cas par cas.
Oui. Tout à fait. C'est pas vrai que le mot met tout le monde dans le même bateau. Parce qu'il y a plusieurs formes, plusieurs causes, plusieurs posologies, puis il y a des niveaux différents qui font en sorte qu'il y a des gens qui peuvent très bien fonctionner malgré une démence.
Et François, quel est l'objectif de la campagne de l'Agence de la sensibilité de la santé publique du Canada? Pour sensibiliser, mais sinon.
C'est d'éviter la stigmatisation, c'est d'éviter justement qu'on associe le mot ou les gens qui sont atteints d'une démence à automatiquement des gens qui sont mentalement déficients et qui ne peuvent pas fonctionner ou qui sont coupés de toute vérité ou de toute réalité. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est un, d'éviter la stigmatisation. Deux, de leur faire comprendre, de s'informer. Tu sais, avec les années... À tous les ans, on apprend que l'être humain vit un peu plus longtemps. On repousse l'espérance de vie, ce qui est merveilleux, on vit plus vieux. Mais ça vient avec des problèmes qu'on ne connaissait pas avant, autant au niveau physique que mental. Et donc, c'est d'inviter les gens à s'informer, puis à comprendre que c'est normal qu'avec les années, le corps vieillit et y est moins performant,
mm-hmm.
mais le cerveau aussi est moins performant. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un qui souffre d'une forme de démence. C'est normal à un certain âge de chercher ses mots un peu plus souvent, de ne pas être, mettons, super efficace dans le multifonction. Tout comme c'est normal de courir moins vite à 85 qu'à 25 ans. Donc, il faut démêler tout ça puis s'informer, puis aller, entre autres, sur le site canada.ca démence pour voir, OK, ce qui m'inquiétait, puis finalement, non, je suis correct, là, c'est un vieillissement normal de mon cerveau, c'est pas ce que je croyais, et de pas faire l'erreur de s'auto-diagnostiquer.
Ouais.
L'Alzheimer ou la démence, ça ne peut pas se dépister avec une simple prise de sang, des examens approfondis avec un spécialiste. Donc, si les gens ont vraiment un doute, puis disons qu'une façon de savoir, c'est c'est lorsque la personne en arrive à un état où elle ne peut plus gérer des aspects importants de sa vie. Donc, le signal d'alarme, c'est pas « j'ai oublié le nom de mon meilleur ami », c'est pas ça. C'est de plus être capable de gérer sa santé, ses finances, de plus être capable de conduire un véhicule automobile, des changements de comportement drastiques aussi, comme, mettons, une humeur beaucoup plus sèche qu'avant, ou les gens vont parfois s'isoler aussi socialement. Ça, c'est des signaux d'alarme.
Comme c'est arrivé à vos parents.
Oui. Oui, parce que mon père, moi, on s'en est rendu compte vraiment d'une façon un peu bizarre. C'est que puis mes parents, moi, j'avoue aussi, on vivait dans une certaine naïveté. Mes frères, ma sœur et moi, parce que mes parents étaient en super forme physique et mentale jusqu'à à peu près 87 ans. Fait qu'on jamais on a considéré la possibilité que ça pourrait leur arriver.
C'est vrai,
on a comme été
oui.
naïfs par rapport à ça. Puis j'invite les gens à ne pas avoir la naïveté que nous, on a eue, puis à avoir la discussion avec leurs parents ou à leurs grands-parents ou eux-mêmes, s'ils arrivent à cet âge-là, à savoir, mettons que ça arrive, qu'est-ce qu'on fait?
Mm-hmm.
Parce que parfois, la courbe arrive très rapidement. Puis, dans le cas de mes parents, moi, c'est qu'ils se sont retrouvés à une espèce de no man's land où ils ne fitent plus nulle part, dans le sens qu'ils ne peuvent plus être autonomes. Ils ne fitent plus non plus dans une résidence privée parce qu'eux ne gèrent pas les gens qui ne sont pas autonomes. Ils ne peuvent pas aller dans le système parce que ça prend un certain temps. On ne rentre pas dans le système qu'on va rentrer dans un pet shop. Là. Il faut qu'ils soient évalués. Il faut qu'on trouve l'endroit qui correspond à leurs besoins. Ça, c'est plusieurs mois. Mais pendant ces mois-là, qui s'en occupe? Là, tu deviens aidant naturel.
Ouais.
Ben, c'est ça, sans en avoir nécessairement les compétences ou le temps. Et il y a toute une gestion du temps, mais il y a toute une gestion émotive aussi de voir tes parents
dépérir.
Dont l'état régresse comme ça, c'est pas des beaux moments. Donc, bref, si vous pouvez avoir la discussion et prévoir de si ça devait arriver, comment on réagirait, ça pourrait déjà alléger un peu le fardeau.
Oui, ça ne doit pas être une discussion facile à avoir quand même, mais c'est
non,
important de l'avoir.
Bien, c'est comme, je dirais, faire son testament, c'est pas
ouais.
le fun, c'est pas d'entrevoir des moments comme ça.
Oui.
Mais pour l'avoir vécu sans l'avoir vu venir, si j'avais à refaire, si je pouvais revenir dans le passé, j'aurais préféré qu'on ait la discussion, mes frères, ma sœur et moi, puis qu'au moment où c'est arrivé, qu'on sache, OK, oui, on en a parlé, donc on fait ça, parce que ça peut arriver vite.
Mm-hmm.
Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, je le souligne encore, mais nous, ce qu'on a vécu, c'est que c'est arrivé très vite.
Parce que l'impact de la démence sur les proches aidants est vraiment réel, puis peut être encore plus fort si on part de rien, si on n'a aucun outil, on ne sait pas trop quoi faire.
Bien, c'est parce que c'est très déstabilisant. Je dirais, je comparais ça à certains niveaux. Lorsqu'on a un enfant, le quotidien est bouleversé. Là. Je veux dire, tout ton horaire est fait en fonction de l'enfant, de à quelle heure il se lève, à quelle heure il mange, il est où à l'école, tout ça. Puis là, après, toi, tu construis ton horaire de travail, tes loisirs,
en fonction
de où est l'enfant en ce moment-là.
Mm-hmm.
Mais quand tes parents deviennent dépendants de toi et que finalement tu deviens leur parent, c'est carrément ça qui s'est passé dans mon cas, ça demande une réorganisation, je dirais, quotidienne et technique de tes activités. Mais il y a une gestion émotive aussi qui n'est pas à négliger, là, dans le sens que de voir, tu sais, dans le cas de mon père, tu sais, qui est comme un modèle de solidité. J'ai jamais vu mon père être vulnérable de toute sa vie, qui était le pourvoyeur, le protecteur, puis tout d'un coup, qui est réduit à une fraction de ce qu'il était. C'est sûr que ça bouleverse un paquet d'affaires en soi, puis qu'il faut être solide, là, parce que c'est émotivement très, très challengeant.
Qu'est-ce que vous retirez de ces expériences-là?
Comment vous dites?
Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience-là? Parce que c'est terrible, comme vous le dites, là, de voir votre père, qui était solide comme un chêne, perdre ses moyens, pas du jour au lendemain, mais de façon assez radicale, rapide.
Bien, ce qu'on en retire, c'est, je dirais... ce que je veux dire est un peu cliché, là, c'est que c'est profite des gens pendant qu'ils sont là. Tu sais jamais, tu sais, il n'y a pas de bonne façon de perdre les gens. Hein. Il y a deux façons, finalement, que les gens nous échappent. C'est soit une tragédie, donc un accident de la route, une crise cardiaque, c'est très soudain, c'est un coup de poing au plexus solaire, on ne l'a pas vu venir et mon Dieu, que ça n'a pas de bon sens. ou encore c'est quelque chose, une maladie, un cancer, une maladie du cerveau qui peut être très violente et rapide, mais qui peut aussi s'étirer dans le temps. Pour avoir vécu, moi, des amis qui sont morts d'un cancer, bien, au moins, tu as l'occasion de leur parler, d'échanger, de dire adieu, parce qu'ils sont mentalement encore là. Lorsque les gens, bien là, dans le cas de ma mère, comme je vous dis, ça a été très soudain, et quand tu ne te reconnais pas, c'est difficile. Il n'y a plus d'échange, il n'y a plus rien. C'est comme plusieurs petits deuils que tu vis. Tu vis le deuil de « Ah, OK, donc la relation n'est plus la même. Ah, OK, je ne peux plus parler avec elle. » Ah, OK, elle ne me reconnaît plus. Donc, c'est le dernier deuil, c'est le deuil physique. Puis, dans le cas de ma mère, nous, on était presque au point où. On était au point, je vais être honnête, où on disait, ben là, venez la chercher. Là, je veux dire, je ne sais pas s'il y a un duo ou quoi que ce soit, mais s'il y en a un, peux-tu venir, s'il te plaît, parce que je pense qu'elle a fait le temps.
Mais dans la relation que vous aviez, vos frères et sœurs, avec votre père et votre mère, qui sont, votre père est mort en 2019 et votre mère en 2021, comme vous le disiez tantôt.
Exact.
Dans ces derniers moments-là, est-ce qu'il y a eu des moments justement précieux où vous vous dites, il y avait une connexion différente, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé quand même avec vos parents, oui. Même si la relation était totalement bouleversée, différente. Là.
Oui, dans le cas de mon père particulièrement, parce que son Alzheimer faisait en sorte qu'il y avait des moments de totale lucidité, hein, comme on en parlait tantôt, dans les stades précoces d'une démence ou d'Alzheimer, au début, les gens ne sont pas du jour au lendemain plus là. Tu sais, il y a des moments où ils sont totalement là, donc on profite de ces moments de lucidité-là. Dans le cas de ma mère, où c'était une démence qui était beaucoup plus prononcée, il y avait quand même des fois... T'sais, je me rappelle des moments où j'étais devant elle, puis j'allais la voir à sa résidence, puis j'y parlais, puis je sentais qu'il n'y avait aucune connexion, puis que je n'étais pas là dans sa tête. Puis maman me regardait comme si j'étais un total inconnu. Mais à un moment donné, des fois, il y a quelque chose que je disais, puis je ne savais pas exactement c'est quel mot ou quelle expression faciale que là, oh, pendant 2 secondes, dans son œil, j'ai vu qu'elle était là. Oui. Elle a été avec moi 2 secondes, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Puis ce 2 secondes-là, tu le prends, tu le captes, tu le chéris, tu l'emmagasines dans ton enregistreur numérique dans ta tête. Tu fais « Ah, OK, j'ai bien fait de venir. » Tu sais, ça, je l'ai ramené pendant 2 secondes, puis je chéris ces moments-là lorsqu'ils arrivent.
Et je lisais qu'il y a 452 000 personnes de plus de 65 ans qui vivaient avec une démence diagnostiquée au Canada entre 2017 et 2018, c'est pourquoi c'est important d'en parler comme société aussi, François Morency.
Oui, puis les gens, c'est des nouveaux problèmes. Hein. Comme on disait tout à l'heure, c'est que il y a 40 ans, 50 ans, jamais on aurait eu cette entrevue-là, vous et moi, parce qu'on n'en parlait pas de démence. Les gens ne vivaient pas assez vieux. C'est clairement prouvé scientifiquement que le facteur de risque numéro 1, c'est le vieillissement. Il y a parfois des démences précoces qui arrivent peut-être à 65 ans, mais c'est à peine... C'est 5 % des cas, même pas. Là. C'est vraiment très, très, très rare. Le facteur numéro 1, c'est le vieillissement, donc surtout après l'âge de 80. D'où l'importance de, si vous avez dans votre entourage des gens qui sont à cet âge-là, de whoop, que c'est possible que ça arrive et c'est possible que ça n'arrive pas du tout aussi. Mais c'est un problème qui puisque l'espérance de vie va constamment être repoussée, la médecine fait en sorte que, justement, ça... Le chemin va continuer à aller de l'avant, là, ça ne va pas régresser. Il y aura de plus en plus de cas comme ça, d'où la nécessité d'en parler, et de s'informer sur les bonnes choses à faire.
Oui, c'est important de ne pas se mettre la tête dans le sable, de ne pas vivre dans le déni.
Non, vraiment pas. C'est jamais bon de le faire pour quoi que ce soit dans la vie, à mon avis. Là,
c'est vrai.
Particulièrement pour ça.
Bien, François Morency, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole pour l'Agence de la santé publique du Canada et puis qui est en campagne, là, qui a été lancée en janvier, puis ça se poursuit jusqu'au mois de mars, mais il faut en parler à tous les jours de l'année. Là. C'est un enjeu qui n'est pas en voie de disparition, au contraire. Et on va continuer aussi de suivre ce qui se passe dans discussion avec mes parents, l'esprit de vos parents qui demeure bien vivant à travers cette série qui connaît un succès fou.
Oui, ça permet, ça a été ma thérapie, honnêtement. Ça m'a permis, c'est une question qui m'est souvent revenue, comment tu fais pour écrire des jokes, des blagues, puis être dans la bonne humeur, puis l'humour quand tu vis de quoi, comme ce que tu as vécu avec tes parents, puis que tu fais une série sur tes parents, bien, ça m'a justement aidé énormément à mettre l'accent et le focus sur mes parents à l'époque où ils étaient comme les personnages de la série, drôles, allumés, actifs, impliqués, et de, je dirais pas d'oublier, mais de tasser un peu dans ma mémoire les moments plus difficiles de leur fin de vie et de focusser vraiment sur les moments où ils étaient à leur meilleur. Donc, honnêtement, pour rassurer les gens, ça n'a pas été plus difficile d'écrire ou de créer ou de jouer pendant ce temps-là. Au contraire, ça m'a forcé à sortir d'une zone d'ombre pour aller vers une zone plus joyeuse, d'une part. Puis en plus, ça m'a aidé à me rappeler que, OK, leur vie a été, 95% de leur vie a été extraordinaire. Puis ils ont vécu à plein, ils ont aimé, ils ont été bien entourés. Donc, ça m'a vraiment aidé. Puis en plus, comme vous dites, la série est un succès fou. Puis ça fait du bien aux gens de voir des personnages de cet âge-là qui sont justement très drôles, puis qui sont... de voir que la relation parent-enfant finalement déborde de loin d'autres considérations. Ça, je pensais que la série s'adresserait essentiellement à des gens qui ont un environnement familial semblable au mien, mais je me rends compte que des gens, peu importe leur âge, leur religion, que ce soit des familles reconstituées, des divorces, tout ça s'associe à ça, puis à cette relation-là parent-enfant qui, peu importe qui tu es, est pas mal tout le temps la même un peu.
Oui, il y a beaucoup d'amour là-dedans. François Morancy, merci encore, puis à une prochaine, j'espère.
Merci à vous. Au revoir. Bye.